Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Aujourd'hui, Franck Ferrand nous plonge au cœur de l'histoire d'une très vieille maison de joaillerie. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. On peut même parler de la plus vieille maison, puisque Mellerio di Meller, rue de la Paix, fête cette année ses 400 ans. Pour nous en parler, j'ai convié l'auteur du grand ouvrage anniversaire, Vincent Mellan. Nous allons donc parler de rangs de perles et de rivières de diamants aujourd'hui. Et pour commencer, j'aimerais vous parler de la collection de bijoux de Marie-Antoinette.
Et tout à l'heure, vous répondrez à la question de Christine qui voulait savoir d'où vient le mot gringalet.
Et oui, gringalet. Il faut reconnaître que la question est étrange, mais vous verrez que la réponse ne l'est pas moins. Pour le moment, place à l'éblouissement des grands joyaux.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
La couverture du beau livre de Vincent Mellan chez Télémaque, Mellerio di Meller, joaillier des reines, la dauphine Marie-Antoinette, mais alors la dauphine parée de diamants, en tour de cou, en parure d'oreilles, en nœuds sur les manches, en diadème, un diadème de perles et de diamants qui court dans sa profuse chevelure, manière de rappeler le rôle déterminant de cette princesse dans l'histoire de la maison quatre fois séculaire. Du reste, le premier chapitre, en deux parties de ce livre, porte sur Marie-Antoinette et sur son goût immodéré pour les joyaux en général et les diamants en particulier. Alors, tout à l'heure, Vincent Mellan va nous raconter la découverte qu'il a faite dans les archives de la maison Mellerio. Il va nous parler de cette Madame de Crawford, autrement connue sous le nom de Madame Sullivan, et de son lien avec Marie-Antoinette, un lien assez particulier puisqu'il s'agit du célèbre Fersen, Axel de Fersen. Pour le moment, j'aimerais vous parler de quelques-uns des bijoux célèbres de la reine, ou plutôt, dans un premier temps, de l'archiduchesse, car il semble bien que la toute jeune Antonia, avant même de devenir la dauphine de France Marie-Antoinette, il semble bien qu'elle se soit très tôt intéressée aux joyaux. Alors vous savez qu'elle arrive très jeune en France, bien entendu. On a beaucoup raconté ce passage de la jeune archiduchesse en France. Elle arrive à Strasbourg et alors on dit qu'on l'a mise complètement nue, qu'on l'a entièrement dévêtue pour être certain qu'elle ne passerait rien en France autre que, en quelque sorte, son âme ou son corps nu. En vérité, c'est pas tout à fait vrai. Il semblerait bien que la future dauphine, celle qui allait devenir la dauphine, se soit seulement mise à part dans un cabinet autrichien qui venait d'être réalisé dans cette maison élevée pour la circonstance, simplement le temps de passer une robe de cérémonie qu'elle avait apportée de Vienne. Alors, la fiancée, dit-on, a même pu conserver ses bijoux de jeune fille. Alors, il n'y avait pas énormément de choses. C'est joli d'ailleurs l'inventaire des bijoux de la dauphine au moment où elle arrive en France. Un collier en esclavage, imaginez tout simplement une sorte de petit tour de cou, bien entendu, qui à l'époque était sur un ruban de dentelle, de très fine dentelle. Des aigrettes, une prétention, des boutons de compère. On est toujours dans ces boutons, dans ces boucles, hein, dans tout ce qui tient les manches, les corsages, etc. Donc, un bouton de compère, des boucles de chien, un bec de diamant pour sa chevelure et une petite montre. Alors là, cette montre, elle est très particulière. Elle est chère au cœur de l'archiduchesse puisque c'est sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, qui la lui a donnée comme une sorte de souvenir juste avant qu'elle ne quitte Vienne. Alors, vous savez, vous imaginez évidemment toutes les cérémonies qui accompagnent l'arrivée de la dauphine en France. Elle passe de ville en ville, on lui fait des cadeaux, des présents. Et d'ailleurs, on peut dire que cette arrivée se fait dans une atmosphère de luxe en général, puisque sur la voiture même figurent des bouquets de fleurs en or. Il faut imaginer la profusion de tout cela. Évidemment, ce qu'attend avec impatience la petite archiduchesse qui va devenir la dauphine de France, ce sont les cadeaux qu'elle va recevoir au moment de son mariage. Pour l'instant, les bijoux que nous venons de voir, ce sont quand même d'assez humbles bijoux qui viennent de la cour d'Autriche. Très bientôt, à Compiègne, il va en être tout différemment. Alors déjà, lorsqu'elle arrive au château de Compiègne, après avoir rencontré la famille royale de France, elle est introduite dans sa chambre par le maître des cérémonies qui apporte portent 12 anneaux de mariage fournis par le surintendant des menus plaisirs, par Monsieur Papillon de La Ferté. Il faut qu'elle choisisse en effet celui qui va aller exactement à sa taille, à son doigt. On le lui enlève car elle ne le portera véritablement que le surlendemain, au moment de la cérémonie de mariage. Et donc ce surlendemain arrive, on est le mercredi 17 mai, le matin du mariage, et tandis qu'on achève de la revêtir d'une robe d'argent, il faut imaginer encore une fois la somptuosité de tout ça, on lui apporte, s'il vous plaît, les bijoux de la couronne de France. Et oui, puisque la reine Marie Leszczyńska n'est plus de ce monde, elle est la première dame du royaume, elle va pouvoir les porter, ces bijoux. Et quand je dis des bijoux, des pierres tout à fait extraordinaires. Il y a notamment les 12 diamants qu'on appelle les Mazarins, du nom du cardinal qui les avait acquis à l'époque. Il y a le Savoie. Le Savoie, c'est un extraordinaire diamant rose. Il y a des perles, mais alors quand je dis des perles, en l'occurrence, 3 rangs de perles fines, dont la plus petite avait la taille d'une aveline, nous dit-on. Vous imaginez ces perles gigantesques qui avaient été rapportées en son temps d'Espagne par Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV. On peut dire que la jeune archiduchesse est complètement éblouie par la somptuosité des joyaux qu'on place devant ses yeux et qui vont devenir les siens. Et c'est peut-être à ce moment-là que la dauphine s'est prise d'une véritable fringale de bijoux. Une fringale qu'elle ne saura jamais réfréner, puisqu'une fois montée sur le trône, alors là, véritablement, elle va faire des commandes incroyables. Dès la fin de l'année 1775, il faut savoir quand même que Louis XVI a donné à sa femme plus de 100 000 écus de diamants, vous imaginez. Dès la fin de 1775, elle va passer commande à la célèbre maison Boehmer et Bassange d'une paire de girandoles de diamants qui valent 348 000 livres. C'est une somme complètement gigantesque. 348 000 livres, ça représente des dizaines de millions de nos euros actuels. Alors on se dit, où prend-elle ça? Eh bien, il semblerait que la jeune reine ait tout simplement pris sur les fonds de sa cassette destinée à faire des dons et des aumônes. Eh oui, que voulez-vous, ça c'est le côté obscur de l'affaire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous revenons à la création de la maison Mélériot avec la reine Marie-Antoinette, Franck.
La jeune reine Marie-Antoinette qui adore véritablement les joyaux. Je vous ai parlé de la grande commande qu'elle fait à la fin de l'année 1775. Elle est montée sur le trône seulement en 1774. Donc ça fait partie des premières commandes de la souveraine depuis qu'elle est devenue reine de France. Eh bien, 6 mois plus tard, au mois de juin 1776, la reine fait exécuter sans le dire à son mari 2 bracelets de 300 000 livres pour lesquels elle doit donner en échange des pierreries, des bijoux et qui ont été racheté à un prix pas très avantageux, mais ça ne suffit pas à couvrir la note et Marie-Antoinette va être obligée d'avouer à son mari, d'avouer à Louis XVI qu'elle a fait un achat un peu inconsidéré. Immédiatement, il faut imaginer que les hommes de l'impératrice Marie-Thérèse à la cour de France, et notamment Mercier Argenteau, tiennent au courant la cour d'Autriche. Le monarque reçut cette proposition avec sa complaisance ordinaire, écrit Mercier Argenteau. Il se permit seulement de dire en douceur qu'il n'était point surpris que la reine fût sans argent, vu le goût qu'elle avait pour les diamants. Après cette remarque, les 2000 louis furent donnés le lendemain. Eh oui, le pauvre Louis XVI est bien trop gentil. Il passe tous ses caprices à son épouse qui, évidemment, ne se gêne pas. Marie-Antoinette est quand même réprimandée par sa mère. L'impératrice Marie-Thérèse n'est pas contente du tout. Une souveraine s'avilit en se parant, lui écrit-elle, et encore plus si elle pousse cela à des sommes considérables et en quel temps. Il faut expliquer qu'à l'époque, les finances de la couronne ne sont vraiment pas glorieuses. Et pourtant, les achats se poursuivent. Une parure de rubis et de diamants bleus, une nouvelle paire de bracelets, 200 000 livres quand même, on est toujours dans des sommes complètement extraordinaires. Elle va refuser cependant le magnifique collier confectionné par Boehmer et Bassange et que le roi veut lui offrir en 1779 pour ses relevailles, c'est-à-dire juste après la naissance de Madame Royale. Il s'agissait d'un extraordinaire collier. Alors en esclavage, encore une fois, importé au départ près du cou, composé de 647 diamants, dont 17 qui étaient gros comme des noisettes. Vous imaginez ces choses extraordinaires. Et alors on connaît la phrase de Marie-Antoinette qui refuse le cadeau de Louis XVI et qui lui dit que la France aurait sans doute davantage besoin d'un vaisseau de guerre que d'un bijou. Ah, on se dit quand même, elle devient un peu raisonnable, cette Marie-Antoinette. Et de fait, on sait qu'à partir des années 1779-80, elle arrête ses grands achats. pas de joyaux. Et notamment en 80, alors quand même, en 80, elle a fait un achat chez des Mélériaux dans des circonstances que nous raconte Vincent Mélan. Un jour de 1780, dit-il, alors qu'il proposait ses merveilles aux curieux devant les grilles de la cour royale du château de Versailles, la voiture de Sa Majesté, rentrant de la promenade, s'était arrêtée devant Jean-Baptiste Mélériaux. La reine avait demandé à une de ses dames d'honneur de descendre afin d'examiner la marmotte du jeune Lombard. Le goût de Sa Majesté pour les joyaux était légendaire et justement, elle avait remarqué un bracelet. Ce bracelet, elle va l'acheter bien entendu et depuis, il s'est transmis de dame d'honneur, de mère en fille on va dire, et on le connaît toujours. Il fait toujours partie des collections d'une grande famille actuelle. Néanmoins, le 12 juillet 1785, la reine se trouve à Versailles lorsqu'elle voit arriver les joailliers de la couronne, Boehmer et Bassange, qui lui proposent, en même temps, ils sont venus lui livrer une épaulette et des boucles en diamant, et ils lui proposent le célèbre collier. Or, ce collier, permettez-moi de vous rappeler qu'elle va le refuser, qu'elle le refuse complètement. « Madame, dit Boehmer dans le petit billet qu'il a glissé à la reine, nous sommes au comble du bonheur d'oser penser que les derniers arrangements qui nous ont été proposés et auxquels nous nous sommes soumis avec zèle et respect sont une nouvelle preuve de notre soumission et dévouement aux ordres de votre majesté et nous avons une vraie satisfaction de penser que la plus belle parure de diamant qui existe servira à la plus grande et à la meilleure des reines. » Et la reine lit ce billet et ne comprend pas du tout de quoi il s'agit. Et pour cause, toute cette affaire s'est faite dans son dos et elle est la victime d'une arnaque. Alors, je ne veux pas vous raconter ici l'histoire de cette formidable arnaque ourdie par Madame de Lamotte sur le nom de Marie-Antoinette, j'allais dire sur le dos de la reine. Une arnaque destinée en fait à soutirer des millions au trop crédule cardinal de Rohan. Vous savez qu'on a fait croire au cardinal de Rohan que la reine Marie-Antoinette n'avait pas les moyens de s'offrir cet extraordinaire collier et qu'elle lui serait très reconnaissante s'il acceptait d'avancer les sommes. Sauf qu'en vérité, bien entendu, la reine n'avait jamais été mise au courant. Elle était totalement blanche dans cette affaire. Et pourtant, l'affaire aura des conséquences politiques extrêmement lourdes, vous le savez. Marie-Antoinette a été considérée par l'opinion publique comme coupable ou en partie coupable dans cette affaire dont elle était en vérité complètement innocente et ces diamants vont devenir le symbole des excès de la souveraine même si à l'époque ces excès n'ont plus cours et l'on peut dire que c'est l'affaire des diamants qui devient en quelque sorte le préambule de la Révolution française et qui va conduire la famille royale où l'on sait. Après tous les déboires, le départ de Versailles, la longue période au château des Tuileries et puis l'incarcération à la prison du Temple, Marie-Antoinette va essayer de faire sortir ses grands joyaux de France. Pas les joyaux de la couronne, je précise, évidemment, ses propres bijoux. Notamment par un émissaire, elle parvient à faire porter au régent, c'est-à-dire au comte de Provence, après la mort de Louis XVI, le cachet aux armes de France et l'anneau du roi sur lequel se trouve gravé M.A. Marie-Antoinette, L.A. Louis-Auguste, 19 avril 1770, cet anneau qui avait été béni à l'église des Augustins de Vienne avant son mariage par procuration. Elle va essayer surtout de faire passer aux Pays-Bas tous ces grands diamants. On peut dire qu'à partir du moment où elle est prisonnière au temple et plus encore à la conciergerie, elle ne garde plus avec elle que quelques joyaux extrêmement chers à son cœur qui sont plutôt des souvenirs et que l'époque des aigrettes et des grands colliers à l'esclavage est totalement passée.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
sur Europe 1 un extrait de la messe du couronnement. Vous continuez, Franck Ferrand, à nous parler du joaillier des reines, Mélériot, et notamment celui de Marie-Antoinette.
C'est le cher André Castelot qui raconte la scène suivante. Dans la nuit du 1er au 2 août 1793, les commissaires de la commune viennent réveiller Marie-Antoinette pour la conduire à la conciergerie, antichambre de la guillotine. Sans dire un mot, elle se lève, la pauvre femme n'a plus désormais la force de réagir, et sans s'émouvoir, elle prépare le paquet de ses hardes, puis en présence de ses hommes qui ont envahi la chambre et refusent de la laisser seule, elle s'habille et à leur demande leur donne ses poches, c'est-à-dire ce qu'elle avait sur elle. Les municipaux, après l'avoir fouillée, lui laissent seulement un mouchoir et un flacon de sel de peur qu'elle ne se trouve mal. Ils se saisissent du reste dont ils font un paquet. On la presse, elle embrasse sa fille en lui recommandant de prendre courage et soin de sa santé. Elle a laissé à sa fille un bracelet et un collier dont 7 rangs de chaînettes réunissent des chatons rectangulaires qui contiennent des cheveux de Louis XVI, de Louis XVII, de Madame Royale et de l'impératrice Marie-Thérèse. Alors elle va arriver à la conciergerie. Vous savez qu'au moment où elle entre à la conciergerie, c'est exactement comme si c'était une fille de joie qu'on avait ramassée dans la rue. On lui fait déposer sur la table, on lui fait mettre tout ce qu'elle avait sur elle. Elle est totalement abasourdie du traitement qu'on lui réserve Marie-Antoinette. Et au moment de son procès, on va ouvrir devant le président Herman, on va ouvrir le paquet des objets qui ont été saisis. Alors on lui demande ce qu'il y a là. « Un paquet de cheveux de diverses couleurs, dit Fabricius avec son accent marseillais. « Ils viennent de mes enfants morts et vivants et de mon époux, dit-elle. « Un autre paquet de cheveux, ils viennent des mêmes personnes, répond la reine. « Un papier sur lequel sont des chiffres, c'est une table pour apprendre à compter à mon fils. « Une servante ou petit portefeuille garni de ciseaux aiguilles, soie et fil. « Un petit miroir, une bague en or sur laquelle sont des cheveux. « Un papier dans lequel sont deux cœurs en or avec les lettres initiales. « Un autre papier sur lequel est écrit « Prière au Sacré-Cœur de Jésus, « Prière à l'Immaculée Conception, « Un portrait de femme. » Herman lève le nez. De qui est ce portrait? Alors la reine répond, de Madame de Lamballe. Deux autres portraits de femmes. Quelles sont les personnes représentées? Demande de nouveau le président. Ce sont deux dames que j'ai connues à Vienne, dit la reine. Et quels sont leurs noms? Les dames de Mecklembourg et de Hesse. Et puis, une bague en or, deux cœurs en or et la fameuse montre pendue à un clou de son cachot. Marie-Antoinette n'a plus que cela comme bijou. Et vous savez que, en fait, tout cela sera vendu aux enchères, comme on faisait toujours après son exécution. Bien après, puisque c'est en l'an 5 que le commissaire d'Ardoise procède à la vente aux enchères des petits biens saisis sur Marie-Antoinette tout à la fin de sa vie. Il ne restera plus que le petit étui, la petite servante de maroquin vert, et ce sera vendu 5 francs 75 centimes. Il y a aussi les trois petits portraits dans les étuis de chagrin qui atteignent 4 francs 40. Quant au reste, il a disparu, il a été volé et on ne sait pas par qui. Alors, au moment où Marie-Antoinette sort du tribunal révolutionnaire pour être reconduite à son cachot, pour y passer sa dernière nuit avant qu'elle ne soit exécutée le 16 octobre 1793, il y a un témoin qui est un témoin important pour ce qui nous concerne aujourd'hui, puisque l'un des gardes municipaux qui a répondu la veille à la convocation de la Commune de Paris, c'est François Mélériot, joaillier de son état, qui, alors que toute sa famille était partie à ce moment-là, est resté, lui, à Paris. Il va devenir donc garde municipal et puis très vite, comme il est menacé d'arrestation, il va devoir s'engager. Il a 21 ans, François Mélériot, à ce moment-là. Il s'enfuit avant qu'on ne l'arrête. Il s'enfuit de chez lui et il a l'idée d'aller s'engager dans les armées de la République. À l'époque, évidemment, la République est en danger. S'engager dans l'une de ces trois armées était la solution, nous dit Vincent Mélan. Et les sergents n'étaient pas très regardants sur le civisme des recrues. Sous un uniforme de soldat, personne n'aurait eu l'idée d'aller chercher l'un des joailliers de la cour de France, d'aller chercher François Mélériot. Bonjour Vincent Mélan.
Bonjour.
Ce François Mélériot, finalement, c'est le petit nouveau, c'est le dernier venu de la lignée sous l'Ancien Régime.
C'est le dernier venu sous l'Ancien Régime et c'est surtout le grand homme de la dynastie. C'est lui qui donne à cette dynastie de joaillier ses lettres de noblesse parce que après ce départ catastrophique et à la sauvette sans rien...
Il va revenir. Il va devenir l'un des grands joailliers de l'Empire et puis surtout de tout ce qui va,
et,
tout
ce qui surtout, va suivre. Et surtout, il va être un type qui a la baraka pendant toute sa vie. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup frappé. J'aime beaucoup François Mélériot. J'ai un gros faible pour lui. C'est un vrai héros de roman. C'est un peu un héros à Alexandre Dumas. Et pour vous dire la vérité, j'étais un petit peu je doutais un peu de ce qu'on disait dans la tradition familiale, parce que Mellerius, c'est encore une entreprise familiale, donc on se raconte les choses de génération en génération. Et l'épisode de la conciergerie, tout ça, Marie-Antoinette, je me disais, bon, très bien, ok. Et en fait, justement, parce que c'est une entreprise familiale, en travaillant sur mon livre, je me suis aperçu que certains membres de la famille m'apportaient des documents qui n'étaient pas forcément dans les archives de la maison, entre autres des convocations de la garde nationale, dont une que j'ai reproduite dans le livre. Et on voit très clairement qu'en fait, la légende, elle a des bases très très solides, parce qu'on a des convocations de la garde nationale au nom de François Mellerius, qui date de 1790, 91, 93.
Seulement la tradition orale des Mellerius, ça s'appuie aussi sur un certain nombre de documents. C'est tout le principe d'ailleurs de l'ouvrage que vous venez d'écrire. Alors, ce chapitre Marie-Antoinette, il comporte une deuxième partie avec la découverte d'un personnage étonnant. Nous y venons dans un instant.